journal présenté par Antoine Mercier. Bonsoir.
Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous. Pour tenter d'enrayer l'expansion des groupes djihadistes dans la région du Sahel, le Conseil de sécurité des Nations Unies évoque en ce moment la création d'une force d'intervention qui serait commune à 5 pays africains. Précision dans un instant de Laure Verneau, commentaire de Jean-François Bayard. L'Arabie Saoudite et l'Irak annoncent la réouverture d'un point de passage frontalier pour faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Riyad espère réduire ainsi l'influence grandissante de l'Iran dans la région. Analyse avec Eric Biegala. Bruxelles répond assez froidement aux propositions britanniques d'union douanière provisoire en attendant le Brexit. La Commission rappelle son credo, le divorce d'abord, la future relation après. Correspondance de Lakshmi Lotha. Pour la 15e année consécutive, Harvard et les universités américaines dominent le classement de Shanghai. La France demeure 6e avec 20 établissements classés. Point de vue avec Camille Magnard. Et puis échange téléphonique Macron-Erdogan tout à l'heure au sujet du journaliste français Lou Bureau, qui est détenu depuis maintenant 3 semaines en Turquie. Le président français exprime son souhait qu'il puisse être de retour en France le plus vite possible. On commence par cette image qui illustre de manière assez contrastée les conséquences du réchauffement climatique. Il y a une partie du Groenland dont la végétation est actuellement la proie des flammes. Selon l'Institut météorologique danois, le mois de juillet a été extrême et un nouveau record de chaleur a donc été enregistré. Tiphaine Honoré, vous nous faites un point de cette situation.
Oui, les records de chaleur n'épargnent pas l'Arctique. On parle pourtant là d'un territoire au-delà du cercle polaire. Au Groenland, les derniers étés ont été marqués par une hausse importante des températures. Une pointe à plus de 24 degrés a même été enregistrée début août dans la capitale. Des températures qui provoquent la fonte des glaces et mettent à nu une végétation très inflammable, la toundra. Rien n'arrête les incendies sur cette terre asséchée, d'autant que le pays n'est pas préparé pour y faire face, si bien que depuis le 31 juillet, plus de 15 km² ont brûlé à l'ouest, au bord de la mer. Une première dans l'histoire du Groenland, selon l'EFIS, le système européen d'information sur les feux de forêt.
L'Arctique donc particulièrement fragile et menacée, donc on le voit, par le réchauffement climatique global.
Oui, le climatologue Jean Jouzel rappelait ce matin que les pôles sont des régions particulièrement vulnérables au réchauffement de la planète. Il y est 2 fois plus rapide qu'en moyenne globale, amplifiant de fait la montée des eaux. Et ce qui inquiète d'autant plus les chercheurs, c'est que ces incendies provoquent un cercle vicieux. Les cendres qu'ils dégagent accélèrent la fonte des neiges en rendant la glace plus sale et donc moins réfléchissante. Les fumées sont elles aussi nocives puisqu'elles libèrent une grande quantité de CO2 contenu dans le permafrost, cette couche du sol censée ne jamais dégeler. Cet épisode exceptionnel risque donc malheureusement de se reproduire si rien n'est fait pour contenir les températures.
Tiphaine Honoré, merci. Après les attaques contre les forces de l'ONU au Mali et aussi après l'attentat dans un café de Ouagadougou, les 15 membres du Conseil de sécurité discutent en ce moment même de la création d'une force d'intervention commune à 5 pays du Sahel, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Force qui viserait donc à combler les lacunes des dispositifs militaires nationaux et multinationaux d'ailleurs dans cette région, lesquels semblent avoir du mal effectivement à enrayer l'expansion des groupes djihadistes, force de quelques de 5000 hommes qui devraient être opérationnels à l'automne, mais évidemment son financement est encore loin d'être assuré. Laure Verneau.
Oui, dans un communiqué qui condamne les attaques menées contre les casques bleus à Douenza et Tombouctou, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, salue les efforts des pays membres du G5 pour, je cite, combattre le terrorisme et promouvoir la paix et le développement dans la région. Mais de là à délivrer un mandat onusien pour une force d'intervention estampillée G5 Sahel, il y a encore du chemin. Déployer une force antiterroriste est la pierre angulaire du G5S, G5 Sahel, et une initiative sans pareil sur le continent. La force d'intervention est censée se déployer en complément de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali, et de Barkhane, l'opération extérieure française qui officie au nord Mali, pour pourquoi pas à terme remplacer cette dernière. Le projet de cette force est évoqué une première fois en novembre 2015, puis reste lettre morte jusqu'en février de l'année suivante. Car oui, c'est un projet ambitieux qui demande un sacré financement. Vous le disiez Antoine, 5000 hommes pour un budget global de 400 millions d'euros. Or, aucun des pays membres du G5S n'a les moyens de mettre concrètement cette armée armée sur pied. Donc la solution pour ces cinq pays serait de recevoir un mandat de l'ONU pour réduire les coûts. En juin dernier, l'Union européenne s'est engagée à verser 50 millions d'euros, mais pas sûr que l'ONU soit, elle, prête à sortir le portefeuille, car le contexte international est tendu. L'administration Trump s'est opposée en juin à ce que l'organisation avalise et finance une force antiterroriste menée par des Africains. Et d'une façon plus globale, les États-Unis, les premiers bailleurs de fonds de l'ONU, ont drastiquement réduit leur enveloppe depuis l'élection de Donald Trump.
Merci Laure Verneau. On est en ligne avec l'historien Jean-François Bayard, professeur à l'IHEID, l'Institut de hautes études internationales du développement qui se trouve à Genève. Bonjour.
Bonjour.
Une force commune d'intervention, est-ce que ça aurait plus de chances de réussir à lutter contre le djihadisme que les forces nationales selon vous ?
Je pense que la réponse militaire ne s'adresse qu'au symptôme qui est le djihadisme. Et en réalité, le djihadisme prospère sur une violence sociale et agraire beaucoup plus profonde. D'une part, l'accaparement de la terre par la classe dominante, par des projets agro-industriels d'État, par le développement des mines avec des essais d'éviction de la paysannerie, et puis d'autre part les relations entre les pasteurs, les éleveurs d'une part, et d'autre part les agriculteurs. Et la circulation par exemple des troupeaux est rendue de plus en plus difficile par la titrisation de la terre et par le développement de ces projets agro-industriels. Donc je crois que c'est ça la véritable cause.
Oui, ce sont des causes profondes, mais pour l'heure, est-ce qu'il y aura un moyen sécuritaire de rétablir une situation pacifiée dans cette région ?
Une intervention militaire, c'est comme une intervention chirurgicale. Ça ne répond pas forcément au fond du problème. Et d'une certaine manière, la militarisation accroît les difficultés, par exemple en renforçant les capacités coercitives des États. Et les armées dans cette partie du monde ne se comportent pas comme des enfants de cœur. Donc le développement de la violence engendre souvent une exaspération de la colère sociale. Et on voit bien que, par exemple, dans les affrontements entre les pasteurs et les agriculteurs, qui sont extrêmement fréquents dans le sud du Mali et dans le nord du Burkina Faso, ce dispositif ne résoudra absolument pas les choses. Et par ailleurs, l'Europe a une grande part de responsabilité. Sa politique de prohibition migratoire et de prohibition dans le domaine des narcotiques crée de manière artificielle une économie criminelle dont les mouvements armés profitent.
Merci beaucoup Jean-François Bayard pour toutes ces questions et évidemment de la question plus large aussi. Je renvoie à votre livre publié cette année, L'impasse nationale libérale. C'est publié aux éditions de La Découverte. L'Arabie Saoudite est toujours à la manœuvre pour tenter de contrer l'influence régionale de l'Iran. Riyad et Bagdad annoncent ainsi la réouverture d'un passage frontalier dans le nord de l'Arabie pour faciliter les échanges commerciaux. Il était fermé depuis 27 ans, depuis en fait que les deux pays avaient rompu leurs relations diplomatiques. C'était au moment de l'invasion du Koweït par l'Irak de Saddam Hussein en 1990. Rapprochement donc entre les deux pays qui a commencé il y a maintenant 2 ans quand l'Arabie Saoudite a rouvert une ambassade à Bagdad. Et Riyad espère donc maintenant, Eric Biegala, réduire par ce biais l'influence grandissante de l'Iran dans la région.
Oui Antoine, mais Bagdad est aussi demandeuse de meilleures relations avec son grand voisin sunnite, l'Arabie Saoudite, et l'Irak, en grande majorité chiite, et où l'Iran dispose, c'est vrai, d'une influence très importante, aimerait bien également rééquilibrer un peu plus ses alliances. Au-delà de la réouverture du passage frontalier, les deux pays ont également annoncé hier la création d'une commission de coordination commerciale saoudo-irakienne. Des avancées qui font suite aux deux visites, très symboliques, à Riyad, du premier ministre irakien Haïdar al-Abadi, c'était en juin, et plus symbolique encore, du chef chiite irakien Moqtada al-Sadr, qui a lui aussi vu Mohamed Ben Salman, le fils du roi Salman et tout puissant ministre de la Défense saoudien, il y a 10 jours. Réputé proche de l'Iran, Moqtada al-Sadr n'a pourtant probablement pas envie de voir Téhéran gagner encore davantage en influence en Irak, où le chef absolu des chiites irakiens, le grand ayatollah Sistani, 87 ans, ne devrait pas tarder à passer la main. Et les Irakiens en général, les chiites en particulier, redoutent que le successeur du grand ayatollah, le chef spirituel des chiites irakiens, ne soit tout simplement adoubé, nommé par Téhéran. Enfin, le rapprochement avec les Saoudiens est également facilité par un autre facteur, tout chiite qu'il soit, en majorité, les Irakiens sont finalement des Arabes et non des Perses comme les Iraniens, et c'est un élément qui compte aussi. manifestement.
Éric Biegala, merci. L'Union européenne accueille assez froidement la proposition britannique de maintenir une union douanière dite provisoire jusqu'à l'obtention d'un nouvel accord commercial le plus global. Un porte-parole de la Commission européenne déclare prendre note de la demande du Royaume-Uni, mais assure que ces questions ne seront abordées qu'une fois qu'auront été fixées les conditions d'un retrait ordonné. Une manière de rappeler poliment le credo de la Commission, le divorce d'abord, donc le Brexit et la future relation après. À Bruxelles, la correspondance de Lakshmi Lotha.
Ces demandes britanniques ne seront abordées que dans un deuxième temps, indique un porte-parole de la Commission européenne. Ce n'est pas la première fois que Londres tente de négocier des avantages avec ses partenaires avant même que le divorce ne soit prononcé. Coût de la facture, accès au marché unique et union douanière temporaire à présent, le Royaume-Uni souhaite une sortie en douceur. Mais pour les 27, il y a trois thèmes à trancher en priorité. Le sort des citoyens de l'UE au Royaume-Uni après son départ, la fameuse facture pour solder les comptes et la question de la frontière avec l'Irlande. Le négociateur de l'UE sur le Brexit, Michel Barnier, résume sa position sur Twitter. Plus vite le Royaume-Uni et l'Union s'accordent sur ces sujets, plus vite nous pouvons discuter douanes et relations futures. Nous prenons note de la demande du Royaume-Uni, assure toutefois la Commission européenne, qui ajoute dans un communiqué « L'accord sur la future relation ne pourra être finalisé qu'une fois le Royaume-Uni devenu un pays tiers ». Le message est clair, le divorce d'abord. La prochaine session de négociation sur le Brexit est prévue à la fin du mois.
Réaction de l'eurodéputé belge Guy Verhofstadt qui qualifie de fantasme cette volonté d'être dedans et en dehors de l'union douanière et d'avoir des frontières invisibles. Fin de citation. Rien de très nouveau dans le classement de Shanghai cette année qui distingue 500 établissements d'enseignement supérieur dans le monde. Pour la 15e année consécutive, Harvard et les universités américaines continuent de le dominer ce classement. La France demeure 6e avec 20 établissements qui sont classés. C'est un classement qui a été créé en 2003 par un cabinet privé qui prend en compte certains critères, dont notamment le prix Nobel parmi les anciens élèves, le nombre de prix Nobel, donc le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline, le nombre de publications aussi dans les revues scientifiques, notamment Science et Nature, des critères qui sont souvent dénoncés par les Européens comme un biais dommageable pour leur établissement. Cela dit, Camille Magnard, eh bien, ce classement de Shanghai s'impose de plus en plus d'année en année comme la référence pour le marché global des universités.
Oui, d'ailleurs, c'est la ministre française Frédérique Vidal qui en parle le mieux quand elle déclare ce matin que la France tient son rang dans cette compétition internationale. Car c'est bien de ça dont il est question. Le classement de Shanghai veut quantifier, hiérarchiser les performances des formations avec des critères objectifs, les mêmes pour toute la planète. Alors à quoi bon, me direz-vous ? Eh bien, pour permettre aux centaines de milliers d'étudiants qui, à travers la planète, veulent compléter leur formation à l'étranger, de faire leur choix dans cette offre mondialisée. Car on est bien dans une logique de marché de l'enseignement supérieur, avec la recherche de sponsors privés, l'accueil d'étudiants étrangers, c'est devenu une source incontournable de financement pour les universités. Plus l'université ou la grande école affiche un classement élevé, plus elle est en mesure de les attirer, ces étudiants, et de leur faire payer cher le cursus. C'est d'ailleurs la même chose pour attirer les professeurs, chercheurs prestigieux qui feront encore grimper le score de l'établissement au classement. L'un des critères de ce classement, c'est le nombre de publications scientifiques signées dans l'année par les chercheurs rattachés à chaque université. La quantité privilégiée plutôt que la qualité aiment à dire les Européens qui, depuis 2003, doivent bien justifier leur piètre classement. Au début, la posture française a été celle du mépris, la contestation du bien fondé des critères de Shanghai. Mais depuis quelques années, le discours change. Les dernières réformes de notre enseignement supérieur visaient clairement à se conformer aux critères en donnant plus d'autonomie financière aux universités ou encore en les regroupant en pôles régionaux pour peser plus lourd à l'international. Des réformes profondes qui ont laissé des cicatrices, mais qui apparemment ne portent toujours pas leurs fruits.
Camille Magnard, merci beaucoup. Emmanuel Macron porte plainte pour harcèlement et tentative d'atteinte à la vie privée contre un photographe de presse qui le suivait sur son lieu de vacances à Marseille dimanche. Il s'était notamment introduit sur la propriété privée où réside en ce moment le couple présidentiel. Par ailleurs, le chef de l'État s'est entretenu avec son homologue turc au sujet du journaliste français Lou Bureau qui est détenu en Turquie depuis maintenant le début du mois d'août, arrêté fin juillet alors qu'il entrait dans le pays par la frontière avec l'Irak en possession de photographies d'interviews de combattants kurdes. Lourdes. Emmanuel Macron exprime sa préoccupation et son souhait donc qu'il puisse être de retour en France le plus vite possible. Après les glissements de terrain et inondations qui ont fait 300 morts, des milliers de sans-abri à Freetown, le président de la République du Sierra Leone lance aujourd'hui un appel à l'aide internationale et le secours continue de lutter pour tenter de retrouver des survivants. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes écrasées par la chute d'un arbre lors d'une fête religieuse sur l'île portugaise de Madère. La télévision publique avance un bilan très élevé d'au moins 11 morts et 35 blessés. Le temps demain globalement nuageux, des averses sur les reliefs des massifs des Pyrénées, de l'Auvergne et du Jura. Les températures le matin de 10 à 23 degrés. Édition aujourd'hui réalisée avec Caroline Beneteau. Le prochain journal est à 22h avec Sébastien Berriot.